En séance. Une retransmission proposée par Canal Académie.
À l'Académie des sciences morales et politiques, chaque académicien est invité en cette année 2011 à aborder un sujet sur lequel il a particulièrement travaillé ou sur lequel il a tout simplement envie de s'exprimer. Le lundi 27 juin 2011, Michel Pébrot, président du conseil d'administration de BNP Paribas, élu à l'Académie des sciences morales et politiques en 2007, a abordé le thème de la mondialisation en donnant pour titre à sa communication « La poursuite de la mondialisation, nécessité et contrainte ». Nécessité au singulier et contrainte au pluriel. Canal Académie l'a enregistré pour vous. Entrez dans la salle des séances.
La mondialisation que je vais essayer d'analyser est celle des activités économiques et financières, ce que les anglo-saxons appellent la globalisation. Elle est la conséquence du choix qu'ont fait les pays occidentaux avant même la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le choix de la paix. Il leur est apparu nécessaire pour l'assurer d'organiser des relations économiques internationales sur la base de deux principes, la coopération et le libéralisme. Le libéralisme n'allait pas de soi dans la mesure où, dans le même moment, le choix communiste pour une gestion centralisée de l'économie et la guerre froide ont conduit à l'isolement économique de l'Union soviétique et de ses alliés, puis de la Chine. Mais ces choix vont renforcer l'adhésion des pays occidentaux aux règles du jeu de l'économie de marché, c'est-à-dire au libéralisme dans les relations internationales. Je vais essayer de montrer que la poursuite de la mondialisation est aujourd'hui indispensable, mais elle implique, à mon avis, la mise en place de régulation et de coordination qui suppose de profonds changements dans le contenu et les formes de la coopération internationale. Pour saisir les opportunités qu'elle va offrir, notre pays va devoir accélérer son adaptation aux contraintes qu'elle génère. La poursuite de la mondialisation est indispensable car seule elle peut assurer la croissance économique et le progrès social, notamment pour les pays avancés dont l'économie vient d'être déstabilisée par la crise. Elle est de toute façon incontournable du fait des interdépendances qui se sont créées entre les nations et des modifications profondes que les progrès des technologies entraînent dans les conditions des échanges et dans les aspirations des peuples. Le développement, donc tout d'abord, des échanges internationaux est indispensable pour assurer la croissance économique qui est la condition du progrès social. C'est un enseignement de la science économique. L'évolution de l'économie mondiale depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale en a apporté une démonstration pratique. C'est d'abord pour la science économique une évidence. Comme dans notre pays, quelques esprits distingués persistent à en douter, il n'est pas inutile de rappeler la démonstration qu'en a fait en 1776 Adam Smith dans ses recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Le livre premier s'ouvre sur un constat. La division du travail permet l'accroissement de la production. Dès le deuxième chapitre, une explication est donnée. Le goût de l'homme pour l'échange. Enfin, division du travail et marché doivent couvrir la même zone géographique, trouve-t-on au chapitre 2. La conclusion vient un peu plus tard. La maxime, je le cite, de tout chef de famille avisé est de ne pas essayer de faire chez soi la chose qui lui coûtera moins cher à acheter qu'à faire. Ce qui est la sagesse dans la gestion familiale ne peut être qu'exceptionnellement déraisonnable dans celle d'un grand royaume. Et trois arguments complètent le raisonnement. 1. L'échange international élargit le marché, donc la capacité de production et le revenu. 2. Il permet d'accroître la capacité d'épargne. Et 3. Il a l'avantage d'éliminer les activités nationales peu compétitives. En se limitant à cette analyse, on débouche sur une impasse. Quelle serait la spécialisation d'un pays qui serait moins efficace que les autres pour toutes les productions ? Faute de vente, il n'aurait pas de moyen d'acheter. David Ricardo a apporté une réponse en 1817 avec son principe des avantages comparatifs. Chaque pays, montre-t-il, a intérêt à se spécialiser dans la fabrication pour laquelle il a la plus grande supériorité relative ou la moins grande infériorité, celle pour laquelle il a son avantage comparatif le plus grand. Une spécialisation effectuée selon ce principe permet à l'échange d'améliorer la situation de chacune des parties et d'optimiser la production totale. Les recherches ultérieures vont approfondir l'explication de ces principes et notamment montrer que les avantages comparatifs sont les conséquences de différences quantitatives et qualitatives des différents pays en facteurs de production. La croissance des économies des pays occidentaux depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale a confirmé le bien fondé de cette analyse. L'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, que l'on appelle le GATT, leur a fourni, à partir de la fin des années 40, un cadre institutionnel pour libéraliser progressivement leurs échanges de produits industriels par une succession de négociations qui ont réduit les obstacles tarifaires. Cette libéralisation a incontestablement entretenu la croissance économique. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les taux de croissance de la production mondiale et des échanges internationaux sont corrélés. Le second est de 50% environ supérieur au premier en moyenne. Les bienfaits de la libération des échanges ont été plus manifestes encore pour l'économie européenne. La création du marché commun a accéléré le rattrapage des économies européennes par rapport à l'économie américaine. Elle a entraîné les progrès de production dans chacun des pays. L'intégration à l'économie mondiale du Japon, de la Corée du Sud, puis des dragons asiatiques a été aussi un facteur d'accélération de la croissance pour eux et pour leurs partenaires. Autre preuve de la supériorité de l'économie de marché, les échecs des pays qui l'ont refusé. Les expériences de gestion centralisée de l'économie ont été aussi désastreuses pour le niveau de vie des habitants des pays concernés que le régime communiste pour leur liberté. L'atonie des économies a même joué un rôle non négligeable dans l'effondrement du système de l'Union soviétique et de ses alliés. Dès que le contexte politique l'a permis, ces pays ont choisi l'économie de marché. En quelques années, des centaines de millions de Chinois sont sortis de l'état d'extrême pauvreté dans lequel l'économie centralisée les avait installés, et la Chine bénéficie depuis une quinzaine d'années d'un rythme de croissance très rapide, comparable à celui qu'avait connu en leur temps le Japon ou la Corée du Sud. Dès son premier sommet à Washington en décembre 2008, le groupe des 20 a appelé à la poursuite de la mondialisation, conscient qu'il était que toute interruption du processus risquait d'entretenir, ici ou là, des tensions protectionnistes dommageables. La mondialisation est d'autant plus nécessaire aujourd'hui aux pays avancés que les autres moteurs de leur croissance tournent au ralenti. La croissance économique des pays avancés au cours des 10 ou 15 dernières années a été largement alimentée par l'endettement des agents économiques nationaux. Le cas des États-Unis est le plus frappant avec l'affaire des subprimes, mais en Europe, des pays comme l'Espagne, l'Irlande et même le Royaume-Uni ont d'eux-mêmes alimenté leur croissance par un endettement excessif des ménages, la Grèce par le surendettement de l'État. De tels dérapages sont désormais exclus pour un certain temps et c'est heureux. Depuis fin février 2008, pour limiter l'ampleur de la récession résultant de la crise de confiance généralisée qu'a provoquée la crise financière, les pays avancés ont alimenté en abondance l'économie en liquidité. Et d'autre part, ils ont creusé leur déficit budgétaire pour créer une demande publique supplémentaire de façon à limiter l'ampleur de la récession. Alors, ces politiques ont été efficaces, mais elles ont porté les dettes publiques à des niveaux qui font naître des craintes d'insoutenabilité. Plus de 200% du PIB au Japon, plus de 80% dans la zone euro, mais aussi en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Pendant quelques années, c'est clair, les pays avancés vont devoir conduire des politiques monétaires restrictives pour contracter une masse monétaire mondiale gonflée à l'excès, et leurs politiques budgétaires seront contraintes par l'obligation de contracter les déficits et de maîtriser la dette publique. Deux des moteurs potentiels de la croissance sont donc en train de s'arrêter. Dans ces conditions, la poursuite de la mondialisation est vitale pour la croissance de tous les pays. Elle avait été jusqu'à présent le moteur de l'émergence de nombre de pays considérés jusqu'alors en développement. Elle va être désormais un élément fondamental de la croissance du monde avancé. Au demeurant, la poursuite et l'accélération du mouvement d'ouverture des frontières est à peu près inévitable du fait de la montée des interdépendances entre les nations et des conséquences économiques, mais aussi politiques et culturelles, du progrès technique et du progrès des nouvelles technologies de l'information. La globalisation a d'ores et déjà créé des interdépendances entre les pays qui rendent indispensable sa poursuite. Ces interdépendances sont d'abord économiques et sociales. Le commerce extérieur occupe une place trop importante dans la production et la consommation des pays avancés et de nombreux pays émergents pour que sa contraction ne pose pas de graves problèmes. Les exportations de biens et de services représentent seulement 14% de la production nationale des États-Unis, mais 25% de celle de la France et du Royaume-Uni, et plus de 40% de celle de l'Allemagne. Ce sont à la fois, en pratique, la production des entreprises et la consommation des ménages qui se sont internationalisées. Ces interdépendances sont désormais manifestes au niveau de la plupart des aspects de la vie individuelle, l'alimentation, le vêtement, la culture, l'information, sont assurées pour une part croissante de chacun des pays avancés et dans un nombre croissant de pays émergents par l'importation de biens et de services que les pays concernés ne produisent plus et ne saurait plus produire un jour, du moins à un prix acceptable par les consommateurs. Les producteurs eux-mêmes sont de plus en plus dépendants de consommateurs étrangers, voire de productions étrangères. On l'a vu récemment avec les difficultés qu'ont connues des fabricants d'automobiles américains ou européens du fait des programmes de production provoqués chez des sous-traitants japonais à la suite du tsunami. Ces interdépendances sont aussi financières, comme l'a montré la crise récente. Le financement du commerce international a nécessité un large développement des relations internationales, mais surtout, les déséquilibres des échanges internationaux a rendu indispensables des transferts massifs de capitaux des pays excédentaires vers les pays déficitaires, et en particulier des pays asiatiques et producteurs de pétrole vers les États-Unis. Plus généralement, des zones d'épargne vers les zones d'investissement. L'explosion des marchés financiers depuis 30 ans et leur mondialisation ont établi une interdépendance financière inextricable à l'échelle de la planète. Un exemple, les réserves de change de la Chine, plus de 3 000 milliards de dollars de créances sur les États-Unis, créent une situation créancier-emprunteur d'une ampleur sans précédent. Les interdépendances concernent aussi de plus en plus souvent les facteurs de production. Rares sont désormais les grandes sociétés d'Europe continentale, dont le capital n'est pas détenu majoritairement par des étrangers et dont les salariés ne sont pas majoritairement étrangers. Les grandes sociétés multinationales sont le symbole de ces interdépendances. Elles constituent de véritables communautés internationales dotées de leurs propres règles et de leur propre culture. Elles sont porteuses de normes de responsabilité sociale et environnementale qui peuvent faire d'elles de véritables citoyens du monde. Les progrès scientifiques et techniques, et notamment les nouvelles technologies de l'information, ne cessent d'élargir le champ géographique des marchés potentiels d'un nombre croissant de produits et de services. La distance n'est plus un obstacle à l'élargissement géographique de nombreux marchés. Le coût des transports maritimes a changé d'ordre de grandeur avec l'invention des tankers géants pour le transport du pétrole et l'utilisation des conteneurs pour les marchandises. L'abaissement du coût des transports de personnes et surtout la banalisation du transport aérien favorisent la mondialisation du marché du tourisme, mais aussi de nombreux services à forte valeur ajoutée. Enseignement supérieur, consultations médicales, conseils juridiques et fiscaux. La production peut donc de plus en plus se localiser selon le principe des avantages comparatifs à l'échelle de la planète. Le mouvement paraît bien irréversible. Les nouvelles technologies de l'information ouvrent des champs nouveaux à la mondialisation de certains marchés. Elles permettent de commercer à l'échelle de la planète. Elles offrent en effet un accès direct à l'information sur les produits et services à tous ceux qui veulent s'y intéresser partout dans le monde. De nouvelles entreprises apparaissent, certaines spécialisées dans la comparaison des offres, d'autres dans l'acheminement des produits physiques à travers le monde. La société Amazon, créée en 1995, a réussi à installer une véritable librairie planétaire et elle se lance aujourd'hui dans la commercialisation de produits frais. La mondialisation est désormais un mouvement porté par les opinions publiques elles-mêmes. Celles des pays avancés, qui ont fait de la toile un instrument de mondialisation de leur culture. L'informatique est en train de constituer des bases de données universelles, de disques, de livres, de films. Internet va ainsi permettre à tous les hommes et les femmes du monde d'accéder à toutes les œuvres intellectuelles et artistiques, mais aussi à toutes les informations. Les gouvernements eux-mêmes sont impuissants à arrêter ce mouvement. On l'a vu récemment avec la publication par Wikileaks de tous les télégrammes de la diplomatie américaine, ou avec l'organisation via Internet de rassemblements qui ont déstabilisé des gouvernements ou des régimes en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient. Les nouvelles technologies de l'information permettent de faire de tous ceux qui les utilisent de véritables, je reprends la formule, citoyens du monde. Les conséquences politiques de cet état de fait peuvent être considérables. Les conséquences économiques sont déjà significatives. Les interdépendances entre les nations, ceux qui se sont insensiblement mis en place, sont en effet irréversibles, sauf à imaginer un choc politique majeur ou un conflit international. Mais la poursuite de la mondialisation rend indispensable, et c'est une contrainte, de nouvelles régulations et coordinations au niveau international. La crise récente l'a bien montré. C'est à l'échelle de la planète que se posent de plus en plus souvent les problèmes. C'est donc à ce niveau qu'il faut mettre en place les coopérations et les régulations nécessaires. Mais les réponses institutionnelles sont difficiles à apporter et tardent de ce fait à intervenir. Tout d'abord, donc, la montée des interdépendances et la consommation croissante de ressources physiquement limitées rendent de plus en plus nécessaires des régulations et des coopérations à l'échelle de la planète. Les progrès de la mondialisation rendent indispensable, en effet, un certain nombre de régulations pour les marchés de biens et de services, lorsqu'ils se situent à ce niveau. Mais la diffusion de règles internationales apparaît également nécessaire dans des domaines très divers pour faire face à des risques qui peuvent se situer au niveau de la planète. Et dans le domaine économique et monétaire, il est de plus en plus nécessaire d'assurer une concertation et une coordination au niveau mondial. Le domaine est commercial tout d'abord. Le marché, on le sait bien, ne fonctionne de façon satisfaisante que si la concurrence y est correctement assurée, du côté de l'offre comme du côté de la demande. Cela suppose en effet que si monopole ou monopsone existe, ils doivent être régulés, mais cela suppose aussi que les ententes, les pratiques de toute nature qui sont susceptibles d'affecter les conditions d'une réelle concurrence, y compris les aides publiques, doivent être combattues et éliminées. La régulation de la concurrence est inhérente à l'économie de marché. Aux États-Unis comme en Europe, des réglementations précises ont été mises en place de longue date à ce titre. Les infractions sont sévèrement sanctionnées, mais la mondialisation fait progressivement disparaître les frontières nationales. C'est bien au niveau mondial que des règles devraient être désormais édictées. La mondialisation est aussi génératrice de risques qui ne peuvent être maîtrisés qu'au niveau planétaire. La récente crise financière vient d'en donner une illustration spectaculaire. La crise des subprimes américains a failli déboucher sur une crise systémique. Pour l'éviter, des interventions massives des États ont été indispensables. Il est logique dans ces conditions que ces États aient pour ambition d'éviter tout risque de répétition d'un tel scénario. La stabilité financière est devenue un objectif prioritaire. Il faut définir les règles qui l'assureront au niveau mondial, mais il faut aussi s'assurer que ces règles seront traduites en termes juridiques pour l'ensemble de l'industrie bancaire et qu'elles sont appliquées par des contrôles. Tout cela suppose un cadre institutionnel au niveau de la planète. La mondialisation pose des problèmes de sécurité qui nécessitent une régulation planétaire dans bien d'autres domaines. Parmi les plus importants, on peut citer la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme, qui exploitent bien souvent l'existence des frontières nationales pour développer leurs activités dans des conditions tranquilles. Il y a aussi la protection de la santé et celle des consommateurs. Les exemples de risques d'épidémie planétaire se multiplient et le commerce électronique change le niveau géographique du contrôle à exercer pour assurer la protection des consommateurs pour les achats de produits via Internet. Enfin, la croissance économique mondiale est génératrice de certains déséquilibres dans les économies nationales et dans les échanges internationaux. Le sujet de la coordination des politiques économiques et monétaires des principales zones économiques est périodiquement évoqué. La conférence de Bretton Woods en 1944 avait bien identifié les risques que des déséquilibres prolongés dans les échanges internationaux feraient peser sur l'économie mondiale et la nécessité de les corriger par des actions concertées. Au-delà, chacune des grandes crises qui a frappé l'économie mondiale au cours des dernières décennies a été l'occasion de constater l'utilité d'une certaine coordination des politiques économiques et monétaires des grandes zones pour limiter les problèmes posés et éviter que l'absence de concertation affecte l'efficacité des politiques nationales, voire qu'elles deviennent contradictoires les unes avec les autres. L'objectif de chacun est d'assurer à son économie une croissance aussi durable que possible avec un haut niveau d'emploi. La coordination et la concertation peuvent permettre de rendre ces politiques compatibles. En outre, résorber les déséquilibres des échanges internationaux, tout comme réanimer l'économie mondiale à la suite d'une crise de confiance, nécessite une coordination des politiques économiques et monétaires. La poursuite de la mondialisation suppose que l'on s'attaque vraiment au niveau planétaire, et c'est mon dernier point sur ce sujet, à la question de la gestion des ressources rares. Dans les pays avancés, chacun a aujourd'hui pris conscience de la nécessité et de l'urgence de protéger l'environnement et la diversité des espèces dans tous les domaines. Cette protection passe par des politiques déterminées de gestion de l'air, de l'eau, de l'espace, dont la nécessité n'est pas aujourd'hui perçue par la majorité des habitants de notre planète. Une question aussi urgente est celle de la gestion des ressources d'énergie fossiles et de matières premières. Le marché ne peut suffire à la traiter, alors qu'elle relève jusqu'à présent essentiellement de lui, dès lors que peuvent se poser à terme des problèmes de pénurie. Et puis, la question de l'alimentation des habitants de la planète commence à se poser. En un siècle, la population a doublé, elle va encore augmenter de 50% d'ici 2050. L'expérience vient de montrer que les problèmes de faim que peuvent faire réémerger en Afrique une année de sécheresse accompagnée de mauvaises récoltes dans quelques grands pays producteurs. Ces problèmes incontestables ne peuvent être réglés par les seules lois du marché du fait de leur nature. En tout cas, analyse et diagnostic nécessitent, dans chacun des cas, une forme de concertation internationale. Or, les réponses institutionnelles aux problèmes de régulation posés par la mondialisation n'ont pas progressé au même rythme que celle-ci. Les institutions de coopération internationale mises en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale ne sont pas apparues adaptées aux périodes de crise. Aussi, les grands États ont-ils cherché une solution dans des structures de concertation. Ces institutions sont d'abord l'Organisation des Nations Unies, qui avait vocation de centre de régulation des problèmes qui pourraient naître des relations internationales. Malheureusement, la guerre froide a largement stérilisé cette organisation sur des questions économiques, puisque celle-ci était l'un des terrains essentiels d'affrontement idéologique des deux blocs. Quant aux pays du tiers-monde, ils ont été plus intéressés à l'ONU par l'écho de leur prise de position que par des prises de décision. L'ONU compte aujourd'hui 192 États membres. Il est bien difficile d'engager une concertation efficace sur une question d'importance planétaire dans un tel forum. C'est l'expérience qui vient d'être faite avec la nécessaire conférence sur l'environnement de Copenhague. Quant au Conseil de sécurité, il est rare qu'il puisse se saisir de questions économiques. Lorsqu'il l'a fait, cela a été le plus souvent sur des sujets assez spécifiques, comme les questions d'embargo. Les institutions spécialisées dont la création a été décidée à Bretton Woods en 1944 sont rattachées aux États-Unis, mais elles relèvent d'une conception bien différente. Leur gouvernance est proche de celle des sociétés par action. Chaque État y a un pouvoir proportionnel à sa contribution financière. On est loin du système de l'ONU où chaque État dispose d'une voix. Le Fonds monétaire international, qui est la première de ces institutions, rassemble 187 pays. Sa mission est, je cite, « de promouvoir la stabilité dans les relations monétaires internationales ». Il est précisé que cette stabilité repose sur la confiance dans les relations monétaires entre les États, sur la coopération internationale et sur la résorption des déséquilibres des balances des paiements. Pour atteindre ces objectifs, le FMI a établi un code de conduite pour les relations monétaires internationales. Il examine régulièrement les politiques économiques, financières et monétaires conduites par les États. À l'occasion de ces examens des politiques économiques, il peut porter un jugement. Il a en outre d'importants moyens d'assistance technique et financière et peut les mobiliser au profit des États qui connaissent des problèmes de paiements extérieurs. C'est ce qu'il est en train de faire au profit de certains pays de la zone euro, en particulier de la Grèce. Le FMI a un réel pouvoir d'influence par ses avis et à l'occasion de ses concours. Il a joué un rôle utile dans le règlement des déséquilibres extérieurs de nombre de pays. Les réformes en cours vont doubler ses moyens financiers, elles améliorent sa représentativité en augmentant la part des pays émergents dans ses quotes-parts, c'est-à-dire son capital, pour tenir compte de l'évolution de la répartition de la production dans le reste du monde. Il reste néanmoins deux questions à trancher. La première est celle de l'ordre monétaire international. Depuis 1975, la règle est le flottement des monnaies sous sa ferme surveillance, je le cite. Mais la volatilité actuelle des taux de change est très perturbante pour les acteurs du commerce international. C'est ce qui explique que le G20 ait mis à l'étude la question des règles monétaires internationales à la demande de la France. Le FMI a aussi un problème de crédibilité. S'il n'a pas hésité à critiquer les politiques économiques de certains grands pays européens ou émergents lorsque c'était nécessaire, il n'a pas alerté du danger de la montée du déficit courant américain. Depuis le début des années 2000, ce déficit a pourtant atteint des niveaux, 6% de leur production en 2007, qui auraient suscité des critiques pour tout autre pays. Or, la crise financière de 2008 a trouvé ses origines macroéconomiques dans ce déficit et les excédents courants correspondants des pays asiatiques et des producteurs de pétrole. Le FMI a une responsabilité essentielle, la résorption des déséquilibres des paiements mondiaux qui peuvent affecter la stabilité financière mondiale. Il a la capacité, par ses recommandations et ses concours, d'aider à les résorber. Encore faut-il qu'il se mobilise, quelle que soit l'origine des problèmes. Deuxième institution de Bretton Woods, la Banque mondiale, qui elle rassemble 184 pays, a été créée par ces accords pour aider à la reconstruction et au développement des pays membres. Elle a aujourd'hui pour objectif de promouvoir le progrès économique et social des pays en développement. Une autre institution joue un rôle important dans la vie économique internationale, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Sa création en 1995 marque l'avènement d'un nouveau système commercial multilatéral. Elle rassemble 153 pays, elle a pour objet le développement du commerce international, des marchandises et des services, et la protection des droits de propriété intellectuelle liés à ce commerce. Les progrès dans ce domaine sont le résultat de grands cycles de négociations internationales qui ont débouché sur des traités. Le dernier en date, l'Uruguay Round, a débouché sur le traité de Marrakech qui a créé l'OMC. Le cycle de Doha, qui est engagé depuis près de 10 ans, piétine. Le déblocage de cette négociation est essentiel pour la réalisation d'une nouvelle étape dans le processus de mondialisation. Je dois mentionner que l'OMS est récemment dotée d'un organe d'arbitrage des conflits qui fonctionne aujourd'hui entre IADS et Boeing et qui est d'une grande utilité. Pour s'en tenir aux problèmes économiques et financiers, le rôle de ces organisations internationales reste modeste par rapport aux défis de la mondialisation. Les États sont réticents au transfert de souveraineté qui serait nécessaire pour créer de nouvelles institutions susceptibles de traiter les différents problèmes posés par celles-ci. Pour faire face à ces défis, les responsables des grands pays ont cherché des solutions pratiques, des concertations en cercle restreint et la recherche de consensus au sein du club constitué ou choisi pour ce faire. Puis la pression du club via l'opinion publique pour assurer la mise en œuvre des orientations arrêtées. Cette mission de réflexion et de concertation a été confiée, dans certains cas, à des organismes internationaux et qui avaient une autre vocation. Les périodes de crise ont conduit à la constitution de groupes de chefs d'État et de gouvernement. En ce qui concerne les institutions, les deux plus anciennes, qui ont joué ainsi un rôle sur des sujets nécessitant l'émergence de normes internationales, sont l'OCDE et la Banque des règlements internationaux. L'Organisation pour la coopération et le développement économique, l'OCDE, a été créée en 1961 à la suite de l'OECE, qui avait été mise en place en 1948 pour gérer le plan Marshall. Elle s'est progressivement élargie à 34 pays qui ont été sélectionnés un à un sur des critères de niveau de développement et d'attachement à la démocratie. Elle a essentiellement un rôle d'étude, de réflexion et de recommandation. C'est elle qui a fixé des objectifs en matière d'aide au développement des pays avancés. C'est elle aussi que ceux-ci ont plus récemment chargé d'établir la liste des paradis fiscaux et de présenter des recommandations pour lutter contre la corruption et pour lutter contre les paradis fiscaux. Ces recommandations sont aujourd'hui considérées comme des normes que les pays de l'OCDE s'efforcent de respecter et qu'ils cherchent aussi à faire appliquer dans le reste du monde. L'existence, depuis les lendemains de la Première Guerre mondiale, d'une Banque des règlements internationaux a conduit à loger à son siège à Bâle un comité dont la mission n'a rien à voir avec sa raison d'être. La BRI était une banque créée par les banques centrales européennes pour leur servir d'instrument discret dans leurs relations financières. Elle a un conseil d'administration composé de gouverneurs de banques centrales. Ce sont ces gouverneurs qui ont décidé de loger à Bâle, dans les locaux de la BRI, un groupe de réflexion sur la régulation bancaire visant à assurer la solvabilité des banques et, ce faisant, la stabilité du système bancaire mondial. Ainsi sont nés les premiers ratios de solvabilité, puis il y a eu le système beaucoup plus sophistiqué de contrôle prudentiel de Bâle II, et c'est bien sûr ce comité de Bâle qui a été chargé de tirer les leçons de la récente crise financière et de proposer de nouvelles normes de solvabilité et de liquidité pour que puisse être évité tout risque de nouvelles crises systémiques. C'est là l'objet de l'accord de Bâle III qui est en cours de discussion. Enfin, il y a un conseil de stabilité financière qui rassemble les représentants des régulateurs et des trésors des différents pays, qui a été mis en place à la suite d'un bureau du même nom créé au début des années 2000. Ce conseil a pour mission d'analyser les risques macroéconomiques qui pourraient menacer la stabilité financière, élaborer des recommandations, toujours, sur les politiques à conduire pour les éviter. Mais depuis les années 70, c'est en fait au niveau des chefs d'État et de gouvernement que se sont organisées concertations et coopérations internationales. Deux clubs se sont successivement mis en place, le G8 et le G20. L'origine du groupe des 8 est un groupe des 7, Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni, qui s'est constitué en 1975 et qui s'est ensuite renforcé de la Russie. Le groupe se réunit une ou deux fois par an, au moins, et ces débats sont préparés par des réunions ministérielles. Il est susceptible d'assurer une concertation sur tout type de problème entre les États concernés, mais aussi de dégager des positions ou des actions communes ou concertées, des coopérations, voire la création d'organisations. Le groupe des 20 a été créé à l'initiative des Européens, et notamment de la France, comme une réponse à la récente crise économique et financière. Il associe aux autres un certain nombre de pays émergents, en particulier la Chine, l'Inde et le Brésil. Il a joué un rôle très important pour faire converger les politiques économiques conduites par ces pays, qui représentent 80% de la production mondiale au lendemain de la crise. Il a permis d'affirmer immédiatement la volonté de tous de poursuivre la libéralisation des échanges internationaux, de soutenir la croissance économique par les politiques tant budgétaires que monétaires et d'assurer la stabilité financière. La création et les interventions de ce G20 ouvrent incontestablement de nouvelles perspectives à la définition de règles à l'échelle internationale. Il a d'ores et déjà prévu des règles en matière de stabilité financière, mais aussi, par exemple, dans le domaine comptable. Il a prévu qu'elles doivent être établies. Il a récemment défini des indicateurs permettant d'analyser les politiques économiques et financières des grands États du point de vue de leur impact sur les déséquilibres internationaux et donc de préparer une forme de coordination des politiques économiques. Toutes ces initiatives de concertation, dans un cadre ou dans l'autre, sont de nature à faire avancer l'analyse des problèmes auxquels est confrontée la communauté internationale, les coordinations qui sont nécessaires des politiques nationales et les coopérations souhaitables au niveau international. Mais la méthode suivie, qui est de dégager périodiquement des règles internationales à partir d'un consensus de quelques pays considérés comme importants et de l'effort d'entraînement de leur exemple, suppose que ces pays soient considérés par les autres comme représentatifs. Il faut aussi qu'ils soient exemplaires, c'est-à-dire qu'ils appliquent l'esprit et la lettre des recommandations qu'ils ont ensemble établies. Or, on en est aujourd'hui assez loin, car ces pays sont pour la plupart démocratiques, les pouvoirs des chefs d'État et de gouvernement sont pour chacun d'eux dépendants de décisions des organes législatifs, nombreux sont les cas dans lesquels le pouvoir exécutif n'est pas suivi par son législateur. Tel est le cas, par exemple, en matière de régulation financière, où les États-Unis ont voté la Dodd-Frank Act avant la fin des travaux de Bâle III, alors que l'Europe s'apprête à appliquer cet accord. Il ne fait pas de doute qu'il faudra tôt ou tard que les pays, grands ou petits, acceptent dans un nombre croissant de domaines de transférer au niveau d'organisation internationale certaines compétences pour lesquelles la globalisation suppose un échelon mondial de régulation. Et c'est sans doute au G20 de donner aujourd'hui l'exemple. Pour saisir les opportunités de la globalisation et maîtriser les problèmes qu'elle ne va pas manquer de poser, notre pays va devoir accélérer son adaptation aux contraintes que fait naître cette mondialisation. Cette mondialisation va provoquer un élargissement sans cesse croissant du champ géographique de la spécialisation du travail sur notre planète. Donc, une accélération des changements de la répartition internationale du travail. Pour y faire face, chaque pays doit s'adapter en exploitant et en renforçant ses atouts, c'est-à-dire ses avantages comparatifs, et en traitant les problèmes qu'elle pose. Pour ce qui concerne la France, il va lui falloir accélérer et approfondir la construction européenne et renforcer son potentiel de croissance et sa cohésion sociale. L'Europe et la zone euro sont deux formidables atouts dans la globalisation. Il est nécessaire de les renforcer. L'Union européenne est un atout, mais la construction européenne doit être renforcée du fait de la taille, près de 500 millions de citoyens et près de 30% de la production mondiale. L'Europe permet aux pays qui la composent de bénéficier d'un marché intérieur de dimensions adaptées et d'une présence incontournable dans tout processus de négociation ou de régulation à l'échelle mondiale. La mise en place du marché commun et son élargissement ont été un facteur de croissance pour tous les Européens. Les nouveaux venus ont bénéficié d'un effet de rattrapage chaque fois que leur niveau de développement économique était décalé et tous les pays membres ont pu profiter de l'élargissement du marché des biens et des services. Les dimensions de ce marché ont été suffisantes pour permettre de transformer, dans la plupart des domaines, certains des champions nationaux d'hier en acteurs très compétitifs du marché mondial. La mise en œuvre de politiques communes dans différents domaines, notamment les aides à l'agriculture et au développement régional, ainsi que l'union économique et monétaire, ont introduit dans ce marché des formes de solidarité. L'existence de l'Union européenne donne surtout aux Européens les moyens de défendre avec efficacité leurs intérêts dans le cadre de la mondialisation, en particulier dans les négociations commerciales et financières. Le processus de mondialisation implique en effet une suppression parallèle des obstacles aux échanges et l'établissement des conditions d'une concurrence loyale sur les marchés de chacun des pays qui y participent. La politique commerciale extérieure est une politique commune depuis l'origine. En pratique, compte tenu de la dimension européenne, l'Union dispose d'une vraie force de négociation. Surtout, nul ne songe à contester que l'Europe a autant que les États-Unis sa place dans le dialogue avec les grands pays émergents, Chine, Inde et Brésil, pour la définition des nouvelles règles qui doivent organiser la vie économique, financière et monétaire internationale. Qu'il s'agisse de la coordination des politiques économiques et monétaires, de la défense de l'environnement, des problèmes de l'énergie et des matières premières, ou de la stabilité financière. Mais pour être efficace, l'Europe doit renforcer sa gouvernance. Le dispositif prévu par le traité de Nice n'était pas suffisamment opérationnel. Il a certes permis d'accroître les pouvoirs du Parlement européen, il constitue un progrès de la démocratie, mais il a abouti à une certaine complication du processus de décision et à l'affaiblissement de la Commission. Les dernières années ont montré l'efficacité de l'Union lorsque les États ont une réelle volonté politique. Les Européens ont réussi à sortir l'Europe de l'impasse dans laquelle l'avait placée le refus de la Constitution européenne par le référendum français, en mettant rapidement en place un traité constitutionnel qui reprend l'essentiel. Cela a permis à l'Union de faire face à la crise avec une efficacité inattendue. Et en deux sommets européens, à la fois en octobre 2008 et en mai 2010, les Européens ont démontré leur capacité à prendre des décisions dans l'urgence et à prendre des décisions d'une ampleur sans précédent et sans équivalent. J'en viens à l'euro. Sa création a doté les Européens d'un atout extraordinaire qu'il convient d'exploiter. Elle a fait disparaître le fléau de l'inflation. Les Européens disposent désormais d'une monnaie qui joue pleinement son rôle d'unité de compte, d'instrument de mesure et d'instrument de transaction, le rôle qui doit être celui d'une monnaie. Au niveau international, l'euro a été considéré dès sa naissance comme la deuxième grande monnaie de réserve et représente désormais 30% des réserves mondiales de change, aux côtés du dollar qui en constitue à peu près le double. La stabilité de son pouvoir d'achat fait de plus en plus de lui une référence pour un nombre croissant de pays et d'acteurs. Cela explique d'ailleurs, à mon avis en partie, les attaques dont il fait régulièrement l'objet. L'euro est une monnaie forte et a vocation à le rester par rapport au dollar. La zone euro a globalement des paiements courants équilibrés alors que celle des États-Unis est structurellement déficitaire. Les inconvénients du point de vue de la compétitivité des produits européens sont manifestes. Mais il y a aussi des avantages. La force de l'euro est un atout pour les investissements à l'étranger des pays de la zone, qui sont rendus moins onéreux, ce qui est un avantage comparatif considérable dans une période de mondialisation qui implique des investissements hors des frontières. Le renforcement de l'Union économique et monétaire et de la zone euro est indispensable et il est en cours. La Banque centrale européenne a su faire face, mieux que la Fed américaine, à la crise financière à partir de son démarrage en août 2007 et les gouvernements européens ont concerté leur politique budgétaire pour limiter l'ampleur de la récession économique provoquée par le risque de crise systémique fin 2008. Surtout, lorsque la stabilité de la zone a été contestée, tous les pays ont engagé des politiques de rigueur, voire d'austérité, pour maîtriser leur déficit budgétaire et leur dette publique. Et ils ont entrepris un réel renforcement de l'union économique, avec le pacte Euro+, en se donnant les moyens de réellement coordonner leur politique budgétaire, de détecter et de corriger certains déséquilibres structurels. En quelques mois, l'Union économique a fait plus de progrès qu'au cours des 10 années précédentes. La gouvernance économique de l'Europe devient une réalité. L'Europe a manifestement les moyens de renforcer et de développer sa construction si elle en a la volonté politique. Et cet approfondissement est nécessaire car il est probable qu'il faudra tôt ou tard procéder à de nouveaux élargissements, notamment en raison des demandes d'adhésion des pays du Balkan. Le succès de la construction européenne est vital pour les Européens, bien sûr, mais il est aussi important pour le monde tout entier. Car les problèmes de transfert de souveraineté que l'Europe doit traiter pour poursuivre sa construction ne sont pas bien différents de ceux qui seraient nécessaires à la communauté internationale pour faire face aux problèmes de régulation et de coopération posés par la mondialisation. L'Europe est en quelque sorte un modèle réduit de la communauté internationale, un laboratoire. De son côté, notre pays doit réussir à trouver le chemin du développement économique et de la cohésion sociale. L'un de ses atouts pour y parvenir est le dynamisme de ses entreprises, qu'il faut entretenir. Il lui faut aussi assurer la compétitivité de son territoire national, l'éducation et l'emploi de sa jeunesse. L'un des atouts de la France est son tissu d'entreprises. Notre pays est cinquième au niveau mondial par son niveau de production, C'est une position qui est assurée par les 3 millions d'entreprises de toutes dimensions. Les entreprises françaises sont performantes et actives dans les 3 grands secteurs d'activité, l'agriculture, l'industrie, les services. Les très grandes entreprises sont naturellement les plus visibles. Dans la plupart des secteurs où il y avait en France, il y a 25 ans, un champion national ayant une activité internationale, il y a aujourd'hui un champion européen et souvent mondial. Sur les 200 plus grandes entreprises mondiales du classement Forbes 2010, 17 sont françaises et la France est la seule, avec la Chine, à avoir renforcé ses positions sur les 5 dernières années. De leur côté, les PME constituent un important secteur de croissance et de création d'emplois. Elles assurent les 2/3 de l'emploi dans notre pays. Et le succès du statut de l'entrepreneur vient de démontrer que l'esprit d'entreprise fait partie de la culture de nombre de Français. Les entreprises françaises ont de solides avantages comparatifs à exploiter dans la globalisation en cours. Dans tous les secteurs, notre appareil productif a su renforcer ses structures financières et sa capacité d'adaptation au cours des 20 dernières années. Cela explique que nos entreprises aient beaucoup mieux résisté à la crise récente qu'à celle beaucoup moins grave du début des années 90. Les entreprises ont l'expérience que leur donne l'histoire et une véritable culture d'innovation. Elles ont aussi une bonne expertise de la relation client et une culture de la transversalité de l'offre, autant d'atouts sur les marchés qui s'ouvriront dans les pays émergents aux producteurs des pays avancés. Mais les entreprises ont besoin d'un environnement adapté au développement de leurs activités sur le territoire national. Entreprendre suppose la combinaison par un entrepreneur de travail et de capital. Il est indispensable que les entreprises qui ont leur siège dans notre pays trouvent le capital dont elles ont besoin pour leur développement. Cela suppose que le capital investi dans les entreprises ne soit pas pénalisé sur le plan fiscal, ni dans sa détention, ni dans ses revenus, et l'avantage même par rapport à toutes les autres formes de placement financier. Nous avons quelques progrès à réaliser à cet égard. L'entreprise a vocation à innover. Sa capacité à innovation peut être un extraordinaire avantage compétitif. Mais l'innovation est parfois le résultat d'un état d'esprit, elle est surtout, fondamentalement, la conséquence de la recherche. Il est indispensable d'inciter les entreprises à accroître leur effort de recherche. Le crédit d'impôt recherche et les pôles de compétitivité sont deux excellentes initiatives à cet égard. Il faut aussi qu'elles coopèrent avec une université active. Et puis, il faut assurer une bonne image de l'économie de marché, de l'entreprise et des entrepreneurs au niveau de l'opinion publique. Un sondage récent effectué dans 10 grands pays montre que 15% seulement des Français considère que l'économie de marché fonctionne plutôt bien et qu'il faut la conserver. Contre 45% des Britanniques et des Allemands, 55% des Américains et des Brésiliens, 65% des Chinois. Or, il faut orienter les jeunes talents vers les métiers de l'entreprise et promouvoir le capitalisme familial. C'est naturellement aux intéressés eux-mêmes qu'il faut faire le travail. Mais une révision du contenu de l'enseignement de ce que l'on appelle les sciences économiques et sociales à l'école serait bienvenue, comme un rapport de notre académie l'avait souligné en 2008. Tout reste à faire, comme le choix des sujets de l'épreuve des sciences économiques et sociales du baccalauréat 2011 l'a encore montré. Il faut en deuxième lieu assurer la compétitivité du territoire France comme lieu d'installation des activités productives. Notre territoire dispose à ce titre d'avantages comparatifs considérables. Les entreprises trouvent en France l'un des états de droit les plus sûrs du monde. Le droit de propriété et le droit du contrat sont anciens et protecteurs. Et nos tribunaux ont une solide réputation d'équité et d'honnêteté. Le niveau de vie des Français offre un marché de proximité qui permet de tester produits et services sur une clientèle avertie et disposant de moyens. Les infrastructures, en particulier de transport, sont d'une indéniable qualité. La France est naturellement ouverte au monde et Paris, en termes d'histoire et de culture, est l'une des rares villes d'Europe continentale à avoir un réel statut de capitale internationale. Mais notre territoire national souffre de sérieux handicaps de compétitivité par rapport à ses voisins immédiats qui ont dans bien des domaines des avantages comparatifs proches des siens. Le plus important est celui du poids et des déséquilibres de ses finances publiques qu'il a entrepris de corriger. Il faudra aussi mettre davantage ses politiques et ses finances au service de la croissance et de la cohésion sociale. Le niveau de nos dépenses publiques est l'un de nos problèmes les plus sérieux. C'est le plus élevé du monde avec celui de la Suède, avec 55% de la production. Les emplois publics occupent le quart de notre population active. Le niveau des prélèvements obligatoires à 42% de la production nationale nous place en tête du groupe des 8. et nos dérives budgétaires nous ont conduit à un niveau d'endettement de plus de 82% de notre produit intérieur brut. Les Français en sont maintenant conscients. L'État s'est engagé depuis 4 ou 5 ans dans un effort de réforme sans précédent pour maîtriser les dépenses publiques. La crise a malheureusement rendu inévitable une forte augmentation du déficit pour limiter l'ampleur de la récession, comme chez nos voisins. Mais dès 2009, les pouvoirs publics ont pris des engagements précis pour ramener les déficits dans les limites prévues par le pacte de stabilité européen. Et jusqu'à présent, ils les ont tenus, même dépassés. Malgré la crise et l'opposition d'une majorité de l'opinion, une réforme visant à assurer l'équilibre de nos régimes de retraite a été décidée. Rééquilibrer nos régimes sociaux et le budget de l'État sont des objectifs qui ne peuvent plus être contestés, car nous ne pouvons plus laisser dériver la dette publique que nous allons laisser aux générations à venir. Au demeurant, la crise en cours des dettes souveraines dans le monde nous y contraint. Elle a créé un indicateur qui va nous forcer à nous en occuper, c'est le taux d'intérêt. Dans le même temps, les politiques publiques et les comptes publics doivent être mis au service de la croissance économique et de la cohésion sociale. Cela suppose que les administrations publiques conduisent des politiques efficaces pour traiter les problèmes posés par la disparition de certaines activités dont la compétitivité ne serait plus assurée. La disparition d'entreprises du fait de la nouvelle répartition internationale du travail pose des problèmes régionaux, sociaux, humains, auxquels il faut apporter de bonnes solutions. Et puis il faut s'attaquer aux problèmes que l'urbanisation a posés dans certains quartiers des grandes villes, comme on a su le faire à la fin des années 60 et au début des années 70. Il faut permettre à chaque Français de disposer de conditions de vie et de sécurité auxquelles il peut légitimement aspirer. Mais l'action publique doit aussi favoriser la naissance et le développement d'activités nouvelles qui sont nécessaires à la croissance économique et à l'emploi des Français, nécessaires pour faire face à la destruction créatrice chère à Joseph Schumpeter. Cela suppose des politiques favorables au développement des entreprises, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais cela suppose aussi et surtout que l'on se préoccupe de l'état de notre enseignement supérieur et de notre recherche. Je rappelle que le classement de Shanghai ne place que 2 universités françaises dans les 100 premières mondiales, contre une dizaine de Britanniques, et que ceci affecte indubitablement nos capacités d'innovation dans les années à venir. Et puis, et enfin, il nous faut assurer l'avenir de notre jeunesse, c'est-à-dire leur éducation et leur entrée dans la vie active. En ce qui concerne l'éducation, la situation est extraordinairement inquiétante. Les enquêtes PISA que l'OCDE effectue régulièrement permettent de comparer les niveaux des élèves de 15 ans dans 37 pays de l'OCDE. Nos performances et leur évolution ont de quoi inquiéter. En compréhension de l'écrit, la France est passée du 12e rang de l'OCDE en 2000 au 18e en 2009, culture mathématique du 13e au 16e, culture scientifique, stabilisation au 21e rang. En outre, la proportion des élèves en grande difficulté scolaire a augmenté d'une enquête à l'autre, passant de 15% à 20% pour la compréhension de l'écrit et de 16,6% à 22,5% en arithmétique. Ce sont chaque année 150 000 jeunes Français qui sont engagés dans la vie active sans maîtriser le langage, l'écriture et les opérations arithmétiques élémentaires. Et pourtant, la France est l'un des pays de l'OCDE qui consacre le plus de dépenses publiques à l'éducation, 6% de son produit intérieur brut contre 5,7% pour la moyenne de l'OCDE. Nous sommes donc dans une situation préoccupante qui affecte notre compétitivité, surtout dans la perspective d'économie de la connaissance, qui est l'objectif aujourd'hui que l'Europe et la France donc s'est assigné par le traité de Lisbonne. Le législateur a défini dans ce domaine un objectif adapté. Chaque Français devrait sortir de l'école doté d'un socle commun de connaissances et de compétences qui a été défini depuis lors avec précision après une large consultation des Français. C'est désormais l'objectif. Le succès passe par la mise en place d'instruments qui permettraient d'évaluer ces compétences et ces connaissances à quelques niveaux essentiels de leur scolarité. Et puis, il faut traiter les problèmes lorsqu'ils sont détectés et les études ont permis de constater qu'ils pouvaient l'être dès l'entrée à l'école, niveau auquel des moyens devraient être mis en place. L'emploi des jeunes est le deuxième problème à traiter en ce qui les concerne. Notre taux de chômage des moins de 25 ans dépasse 23%, alors qu'il est de l'ordre de 8% en Allemagne et aux Pays-Bas, et de 20% en moyenne dans la zone euro. C'est une situation qui résulte pour une bonne part de la rigidité et de la complexité de notre réglementation du travail et du niveau élevé du coût du travail qu'il faudrait traiter. Mais le problème essentiel est au niveau de notre appareil éducatif qui, à tous les niveaux de l'appareil éducatif, ne réussit pas à produire, si je puis dire, des enfants qui soient à même d'affronter la vie professionnelle. Pas en assez grand nombre en tout cas. Il faut absolument, et c'est par là que je terminerai, faire évoluer cette situation et corriger le pessimisme des Français. Un tiers seulement d'entre nous pense que notre pays est plutôt bien placé pour la compétition économique internationale. C'est le plus mauvais score des 10 pays dont je parlais tout à l'heure. Ce pessimisme a une conséquence dramatique chez les jeunes. Ils sont convaincus que leur vie ne sera pas aussi satisfaisante que la nôtre, que le niveau de vie des Français va régresser. C'est une situation nouvelle pour notre pays. Les adultes de l'après-guerre avaient la conviction que la vie de leurs enfants serait meilleure que la leur, parce qu'ils faisaient des sacrifices pour leur assurer une meilleure éducation. Et c'était aussi le sentiment de leurs enfants. Le même optimisme, d'ailleurs, habite aujourd'hui parents et enfants des pays émergents. La mondialisation de l'économie est indispensable. Et tôt ou tard, les contraintes de concertation, coopération et régulation qu'elle implique au niveau mondial seront acceptées. Parce que c'est à cette condition que pourront être évitées les crises qui retarderaient les progrès. Notre pays a, plus que beaucoup d'autres, la capacité de saisir les multiples opportunités de cette mondialisation. Sa culture de solidarité peut lui permettre, mieux que d'autres, de faire face aux difficultés qu'elle ne cesse de créer. Dans les entreprises, les Français de tous niveaux ont démontré leur capacité à s'adapter, à être compétitifs comme salariés. Pourquoi refuseraient-ils l'adaptation qui est nécessaire comme citoyens ? Face aux défis de l'avenir, il nous faut retrouver l'optimisme qui permet d'entreprendre, de créer, d'avancer, l'optimisme qui permet de réussir. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Vous venez d'entendre l'académicien Michel Pébrot. Vous pourrez lire l'intégralité de sa communication sur le site de l'académie à smp.fr. Vous retrouverez aussi Michel Pébrot sur Canal Académie dans sa chronique de science-fiction.